constituer l'entrée de leurs excellences. Je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie de la République démocratique du Congo, Excellences, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, Excellences, Monsieur le ministre, membre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, membres de la délégation de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs, cadres du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le protocole d'État de la République démocratique du Congo est honoré de vous recevoir à l'immeuble du gouvernement où nous allons assister au point de presse qui vont animer leurs excellences, Monsieur Lutundula Apala Penapala Christophe, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, ainsi que Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons donc la bienvenue. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, le point de presse de ce jour va tourner autour du désengagement de la MONUSCO et pour ce faire, j'ai l'insigne honneur d'inviter Monsieur Alain Tshibanda, conseiller en communication de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, qui va faire office de modérateur pour la prochaine étape. Monsieur Alain.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette très belle salle de l'immeuble du gouvernement. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Affaires étrangères et francophonie et de la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC. Avant de présenter la suite du programme, nous voulons d'abord nous acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Pour revenir à l'objet de la rencontre, il s'agit, comme l'a dit mon collègue, de la conférence de presse conjointe du gouvernement congolais et de la MONUSCO. Deux temps forts vont marquer cet exercice. Nous allons d'abord suivre tour à tour les discours de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, et de Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO. Et après cette étape, la presse sera invitée à poser les questions aux deux orateurs de ce jour. Très respectueusement, j'invite Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, à prendre la parole pour sa présentation.
Certainement en accord avec Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est le week-end. Généralement, le samedi, on a des invitations. Vous avez tenu à être avec nous aujourd'hui dans cette salle du gouvernement. Contrairement peut-être à ce qu'a dit le modérateur, nous ne faisons pas de discours. C'est une communication conjointe que nous faisons aux médias pour informer l'opinion nationale et internationale de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de faire ensemble pour faire aboutir le retrait de la MONUSCO, rappelez-vous, qui a été décidé par le Conseil de sécurité, je crois, depuis 2018. Et donc, ce n'est pas pour vous inonder de discours philosophiques ou politiques. À cet égard, pour ceux qui ont eu le temps de le suivre, il vous souviendra qu'en septembre de l'année dernière, en fait, ça devient l'année dernière, le Conseil s'était réuni pour examiner successivement le rapport que le secrétaire général lui a fait, le rapport, si je ne m'abuse, du mois d'août, et la lettre que le gouvernement de la République démocratique du Congo lui a adressée à travers la plume du ministère des Affaires étrangères. La lettre qui portait sur le choix que le gouvernement a fait d'obtenir le retrait accéléré et encore une fois non précipité, un retrait progressif, un retrait responsable et un retrait réussi de la MONUSCO à partir de décembre de l'année qui vient de passer. Après, comme on dit chez les magistrats ou le conseil facultaire ou universitaire, après débat et délibération, le conseil a pris bonne note du rapport du secrétaire général et a pris acte de la demande du gouvernement congolais et a chargé le comité conjoint. Il existe un comité conjoint pour ceux qui ne le savent pas, MONUSCO, gouvernement de la RDC, comité qui a pour tâche essentiellement de se concerter lorsqu'il y a des initiatives à prendre, des décisions ou des choix à faire par rapport à l'action des Nations Unies à travers la MONUSCO en RDC. Et donc, après avoir adopté, après avoir accepté le retrait accéléré, responsable, le retrait réussi, progressif de la MONUSCO, il nous a été demandé donc par le Conseil de faire ce travail-là. Nous n'avons pas tardé. Nous nous sommes retrouvés, je crois, en début du mois de novembre pour mettre en exécution cette tâche que le Conseil nous a donnée à travers la déclaration de son président du 16 octobre. Nous avons travaillé, l'équipe désespère dans un premier temps du gouvernement et de la MONUSCO, et ensuite on se retrouvait avec les experts, Madame Binteu et moi, évidemment, elle représentant les Nations Unies à travers la MONUSCO et moi, le gouvernement de la République. Je dois souligner que le travail a été fait avec un sens élevé de responsabilité, avec un esprit constructif, en pleine collaboration, en harmonie, et je peux le dire sans peur d'être contredit, nous avons fait un travail en toute responsabilité et nous partageons les conclusions qui ont été consignées dans la note qui porte effectivement sur le désengagement complet de la MONUSCO, de la RDC. Cette note, à ce qui me concerne, je l'ai soumise au président de la République et au gouvernement
ce qui concerne Mme Bintou, certainement que la hiérarchie a été informée. Après ces informations à nos structures respectives, nous sommes assignés le devoir de saisir ensemble le président du Conseil de sécurité pour que le Conseil examine la programmation que nous avons suggérée et qui a été avalisée, comme je viens de vous le dire. Bonne nouvelle, le Conseil s'est réuni, je crois, le 19. Le Conseil a adopté notre proposition à travers sa résolution 27-17. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de cette résolution-là. Et à ce stade, il faut relever et souligner avec force qu'il ne peut plus y avoir un débat quelconque sur le principe du retrait de la MONUSCO. Il ne peut plus y avoir des atermoiements, comme disait le roi Baudouin, parce que nous sommes en Kinshasa, funeste. Il ne faut pas non plus avoir la précipitation inconsidérée. Et ça, c'est la règle que nous avons observée de part et d'autre pour que nous puissions réussir cette entreprise qui ne manque pas de délicatesse et des zones à haut risque. Il faut éviter, en tout cas, gérer avec sagesse et encore une fois, avec responsabilité, pour que, comme l'a dit le président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je me rappelle, le 21 septembre, le retrait de la MONUSCO de la RDC soit un modèle réussi de retrait d'une force des Nations Unies qui est déployée dans un pays pour y restaurer la paix et promouvoir, si vous voulez, les principes universels, les valeurs de démocratie, l'état de droit et le développement partagé dans ces pays-là. Donc, on a fait ce travail-là. Certainement que Mme Bintou va vous donner la quintessence, en grande ligne, de notre plan de désengagement de la MONUSCO qui vient d'être adopté par le Conseil de sécurité et pour lequel nous travaillons d'arrache-pied avec tous ceux qui sont concernés. De notre côté du gouvernement, il y a Madame la ministre d'État au plan, peut-être qu'elle est retenue. Il y a mon collègue, le ministre de la communication. Il y a le ministre des VPM, le vice-premier ministre de la Défense qui est concerné, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est aussi impliqué. Et nous travaillons ensemble pour que ça puisse aboutir. Pour l'essentiel, en très grande ligne de points importants, non seulement que les débats est clos, il ne peut plus y avoir de discussion sur le retrait de la MONUSCO en termes de principes et en termes d'engagement politique des Nations Unies et de la RDC. Pour la petite histoire, je voudrais rappeler certaines phrases fortes de M. le secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il a reçu le président en entretien à New York en septembre. Nous sommes arrivés dans la salle de réunion avant qu'on ne puisse aller plus loin dans son mot d'introduction. Monsieur Antonio Guterres a affirmé haut et fort, il a dit au président, vous demandez que la MONUSCO s'en aille, je vous dis que nous voulons nous en aller. Donc tout s'est résumé à travers ces bouts de phrases-là qui sont assez significatifs et qui guident ce que nous faisons aujourd'hui. Le retrait a commencé. Vadine, qu'est-ce que le vice-premier ministre raconte là? On est encore dans les discours, dans les liminaires. Non, le retrait a commencé dans ce sens que nous sommes à pied d'œuvre, comme convenu, pour fixer les modalités pratiques et pour essayer d'amorcer graduellement, mais certainement, le processus de manière, comme je vous ai dit, à ne pas perdre le pied à un moment ou à un autre. Donc, on a commencé le retrait. Le retrait séquencé sur l'ensemble de l'année 2024, de sorte que la première étape va de maintenant jusqu'au mois d'avril. Nous allons faire l'évaluation, c'est prévu, Après le mois d'avril, nous arrivons à une évaluation que moi j'appelle politique et stratégique au mois de juin. Et on verra déjà, à partir du mois d'avril, s'il faut passer, parce que nous commençons avec le Sud Kivu, elle va vous donner un peu plus de détails, s'il faut passer à la province du Nord Kivu ou de l'Ituri, selon les données de l'évaluation que nous aurons à ce moment-là, de manière que après Ituri ou Nord Kivu, nous puissions nous retrouver avec la dernière province. Et dans tous les cas, tout doit être fait pour que, à la fin de cette année, nous puissions, si j'ose le dire, nous retrouver en fait pour nous féliciter mutuellement, pour remercier les Nations Unies qui ont fait un travail, parce qu'on ne sait jamais ce que serait le Congo sans la MONUSCO, personne ne peut me le dire, et pour ensemble consolider les perspectives que nous aurons tracées et les mettre en œuvre, car il n'y a pas de Congo sans Nations Unies et il n'y a pas de Nations Unies dans sa configuration actuelle sans le Congo. Je laisse la parole à Mme Bintou pour les détails.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux excellences, à son excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie, messieurs les ministres, les membres du gouvernement, la délégation gouvernementale, bonjour et bienvenue aux médias et à mes collègues, les représentants spéciaux adjoints du système des Nations Unies et aussi à tous les collaborateurs et collaboratrices. Tout d'abord, une très bonne année, une très bonne et heureuse année 2024. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par son excellence, mais pour moi, je pense qu'il est important de mettre l'emphase sur le fait que nous devons aussi remercier dans cet accompagnement de là où nous sommes avec le désengagement complet de la MONUSCO. Nous devons remercier toutes les personnes qui sont dans cette salle et ne sont pas dans cette salle, qui ont accompagné le dialogue avec les membres du Conseil de sécurité. Donc nous devons remercier le Conseil de sécurité et qui, à travers sa déclaration présidentielle du 16 octobre, a pavé le chemin qui nous a permis de travailler sereinement, en excellente entente avec toute la délégation gouvernementale, nos collègues du système des Nations Unies, et aussi en consultation avec les partenaires qui sont ici présents à Kinshasa pour arriver à ce moment où nous parlons du désengagement donc de la MONUSCO. Alors, je tiens à préciser que le désengagement de la MONUSCO, ce n'est pas le désengagement des Nations Unies. Les Nations Unies sont présents avant, pendant et après l'existence d'une mission de maintien de la paix. Donc c'est important de comprendre que lorsque nous faisons le désengagement, nous faisons aussi une transition de responsabilité d'accompagnement de l'équipe pays des Nations Unies aux institutions nationales, comme ils le font à travers leur cadre de coopération qui est signé avec le gouvernement congolais, et aussi de savoir que en ce moment même, les Nations Unies, donc les agences, fonds et programmes, sont en train de travailler avec toutes les autorités nationales pour avoir un cadre de coopération qui va couvrir 2025-2029. Et ils sont maintenant à pied d'œuvre pour faire l'état des lieux. Et ça va nous aider dans le processus de désengagement. Un élément important aussi, c'est que les Nations Unies, à travers les agences, fonds et programmes, restent présents. Le vice-premier ministre nous a parlé du séquençage de ce désengagement de la MONUSCO en trois phases distinctes, mais interreliées. Nous commençons avec le Sud Kivu. Et pour le Sud Kivu, nous sommes déjà à pied d'œuvre, comme il l'a expliqué, parce que nous avons un chronogramme sur lequel nous nous sommes agréés. Et ce chronogramme a été adopté par le Conseil de sécurité dans notre mandat, la résolution 2717, disant très clairement qu'en adoptant, en endossant le plan de désengagement que nous avons signé conjointement, vous et moi, le 21 novembre, ils acceptent que nous nous désengagions en première étape, en première phase du Sud Kivu. Et là, je pense qu'il y a des informations importantes à vous donner, c'est que dans ce plan de désengagement qui est public maintenant, j'espère que vous le lirez, le 30 avril 2024, en principe, nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FRDC, la PNC et tous les autres collaborateurs et collaboratrices au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies pour que les troupes de la MONUSCO soient parties fin avril, le 30 avril du Sud Kivu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les FRDC et la PNC vont renforcer leur présence dans le Sud Kivu et notamment dans les endroits où nous avons les personnes déplacées internes qui, pour le moment, sont avec la responsabilité des casques bleus. Et ça veut aussi dire que fin avril, comme l'a dit son Excellence, nous devons être très clairs que pour la protection des civils, c'est essentiellement après, donc au 1er mai, la MONUSCO va se focaliser sur le Nord Kivu et l'Ituri, pour ce qui concerne la protection des civils. Donc la responsabilité de la protection des civils au Sud Kivu à partir du 1er mai sera la responsabilité unique de la RDC, donc des forces de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui concerne la fermeture effective du Sud Kivu, ça sera le 30 juin 2024. Et le 30 juin 2024, Son Excellence nous l'a dit également, le Conseil de sécurité attend une évaluation politique, stratégique et opérationnelle de comment s'est passée la première phase du désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu avec la concomitance des renforcements des capacités nationales et provinciales pour les responsabilités qui sont transférées non pas aux agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, mais à l'autorité gouvernementale de la RDC. Donc ça, c'est un élément absolument important à comprendre. Donc 30 juin, le Conseil de sécurité reçoit un rapport d'évaluation, on va dire. Mais entre-temps, il y a un principe que nous avons agréé avec Son Excellence et les équipes, c'est que tous les 3 mois, nous allons faire une évaluation de l'état des lieux, de comment nous sommes en train de mettre en œuvre ce plan de désengagement. Parce que un désengagement, c'est quelqu'un qui se retire et c'est quelqu'un d'autre qui vient en remonter. Et donc, en étant franc, sincère et transparent sur la manière dont se fait la mise en œuvre, nous avons aussi décidé communément, ensemble, que nous allons régulièrement avoir des points de presse pour expliquer comment nous avançons dans ce processus de désengagement. Et ça veut aussi dire que pendant le moment où on est en train de travailler à mettre en œuvre le programme donc que nous donne le mandat du Conseil de sécurité avec la protection des civils, le PDDRCS, donc tout le monde connaît le sigle maintenant, mais je vais quand même le dire en entier, le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation, plus la réforme du secteur de sécurité, avec les droits de l'homme, avec femmes paix sécurité, jeunes paix sécurité, tout ça ensemble fait que nous allons avoir une trajectoire qui va nous amener essentiellement à dire notre mandat doit être mis en œuvre pendant que nous nous désengageons et en même temps nous préparons les prochaines phases. Vous comprenez? Donc il y a un cheminement, on se retire, mais on doit mettre en même temps en œuvre le programme. Nous devons en même temps préparer les phases subséquentes, donc la phase 2 qui est le Nord Kivu et la phase 3 après qui est aussi le retrait de l'Ituri. Son Excellence a parlé du désengagement complet. On considérera que la MONUSCO, en tant que mission, sera retirée complètement de la RDC lorsque nous avons mis en œuvre la phase 3, qui est la phase concerne la province de l'Ituri. Donc voilà le design. Nous avons fait un rapport de désengagement qui est absolument consensuel, en très bonne entente, endossé par tout le monde, le Conseil de sécurité, qui a commencé à être mis en œuvre. Donc nous attendons que nous tous nous retroussions les manches et que nous délivrerions sur le contenu que nous avons agréé dans ce plan de désengagement. Et très clairement, il va y avoir maintenant dans retrousser les manches, aller au niveau des provinces et travailler avec les instructions du niveau central, avec les autorités provinciales, locales, pour que nous soyons dans une mise en œuvre qui soit comprise de tous et de tous et de toutes, et aussi de faire en sorte qu'il y ait une communication continue qui accompagne ce que nous sommes en train de faire et comment nous sommes en train de le faire. Et pour ça, il nous faut vulgariser, disséminer le contenu du plan de désengagement. Et ça, c'est quelque chose qui est de la responsabilité de tous et de toutes, côté gouvernement, côté des Nations Unies, mais aussi côté des médias et aussi côté de la société civile et de tous les partenaires qui accompagnent la RDC. Et finalement, si je peux terminer, et s'il y a des détails que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est que en ce qui concerne la manière dont nous allons travailler, il est clair que toutes les ressources qui sont nécessaires pour accompagner cette transition et ce désengagement et cette mise en œuvre du mandat, pour ce qui concerne les agences fonds et programmes, il va falloir que le gouvernement et les agences fonds et programmes se mettent ensemble pour préparer un plan de mobilisation de ressources pour que tous les efforts qui ont été faits à travers ces années avec l'appui de la MONUSCO, que les agences puissent effectivement continuer à aider leurs partenaires nationaux. Donc il faudra mobiliser des ressources, à la fois humaines, financières, matérielles, etc., logistiques, tout ce qui doit être en place pour que, effectivement, et là je veux remercier et terminer par ça, remercier le chef de l'État qui par ailleurs je félicite pour sa réélection et son deuxième mandat, en disant le fait de dire à l'Assemblée générale qu'il veut que la RDC soit un modèle de retrait d'une opération de maintien de la paix dans un pays, moi je dis c'est tout à l'honneur de la RDC et nous avec toute l'équipe des Nations Unies, y compris les collaborateurs, collaboratrices de la MONUSCO, nous sommes engagés dans cette vision et nous voulons que tout se passe au mieux parce que ça sera l'héritage qui écrira l'histoire que nous tous, nous avons concouru à ce qu'il y ait un modèle qui soit un modèle pour le monde, bien sûr pour les opérations de maintien de la paix, mais dans un partenariat, dialogue et travail ensemble, le travailler ensemble. Je sais qu'ici on dit on est ensemble, donc on est ensemble pour faire en sorte que la vision du chef de l'État se transforme en une réussite pour la RDC et pour le monde.
Nous remercions leurs excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ainsi que Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Nous l'avons dit dès l'entame du programme, nous allons bientôt passer à l'étape des questions et réponses. Mais juste avant, je voudrais donner deux petites informations. La première, c'est que la conférence de presse est suivie depuis Goma et Beni. Et il y aura des questions qui vont venir également des journalistes qui sont dans la province du Nord Kivu. Nous avons déjà enregistré quelques questions. La deuxième petite information, c'est que à la fin de cette activité, nous avons prévu un communiqué de presse conjoint pour pouvoir accompagner le travail de médiatisation de l'activité. Alors, j'invite j'invite les techniciens à déplacer le micro. Et nous allons enregistrer la première série des questions. Par série, nous allons prendre 5 questions. Chaque journaliste qui prend la parole se présente son organe de presse et pose sa question. Nous précisons que par média, c'est une question. Alors, nous allons commencer avec la première série. Madame Doris Mozo va nous aider pour faire circuler les micros. Oui, nous commençons avec... Oui, présentez-vous. Ici devant.
C'est devant.
C'est Rémi Moulonda de l'Agence Congolaise de Presse. ACP. La question que je voudrais poser, je m'adresse plus particulièrement à Madame la représentante. Le plan de désengagement que vous avez signé avec le gouvernement ou bien avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, il y a trois volets. On a parlé de désengagement et transfert des responsabilités. Bon, je voudrais savoir, en ce qui concerne transfert des responsabilités, est-ce que la MONUSCO, quand il va se désengager, il va transférer aussi la logistique, c'est-à-dire les équipements militaires et autres logistiques au gouvernement de la RDC? Ça, ma question.
Merci. Nous allons prendre la deuxième question. Oui, le monsieur. Vous présentez et le média.
Une seule. Roger Marley Lukunga pour RT Éduc. Le terrain où œuvrait la MONUSCO, l'Est de la République démocratique du Congo, ou en général la région des Grands Lacs, est considéré par les spécialistes des relations internationales comme un terrain à crépitement d'obus, la poudrière de l'Afrique. C'est pratiquement la transposition du Moyen-Orient en Afrique noire. Alors j'aimerais savoir, une fois la MONUSCO partie, cela ne donnera-t-il pas l'occasion aux pays voisins de l'Est qui nous attaquent d'inventer de nouvelles insurrections aux fins de se victimiser encore? Et si tel serait le cas, qu'adviendrait-il? Où donc se résoudrait ce genre de problème?
Merci. C'est une communication conjointe. Les deux autorités pourront répondre à chaque question. Okay. Oui, nous prenons les t-shirts rouges derrière. Oui, la dame.
Merci. Je suis Mathie Moussaou pour le journal Forum des As. Je veux savoir le sort de milliers de déplacés dont la survie dépend, dans la plupart des cas, dépend de base de la MONUSCO. Après le départ, est-ce qu'il y a une stratégie, il y a une suggestion, il y a quelque chose qui est prévu pour leur protection? Merci.
Nous allons prendre la quatrième question. Oui. Oui, on commence par lui.
Ça sera la cinquième, hein, c'est ça?
Oui.
Merci, je m'appelle Amène Dimoni, je suis là pour le compte de Route Télévision. Madame Bintou Keïta, la MONUSCO est venue pour mettre la paix en RDC et la MONUSCO part sans laisser la paix en RDC. Avouez-vous que vous avez raté votre mandat?
Nous allons prendre la dernière question pour la première série.
Excellence, Madame Bintou Keïta, vous ne me voyez pas, je suis ici. Paul Lorgerie pour la Deutsche Welle. Deux questions en une, disons. Vous avez parlé d'un rapport qui sera remis le 30 juin pour la première phase de désengagement au sud Kivu. Je ne vous vois pas du tout, il y a plein de photographes, pardon, c'est pas très agréable. Sur quels critères, en fait, vous pouvez considérer que vous pouvez commencer la seconde phase de désengagement au Nord Kivu, puis en Ituri? Et ensuite, a-t-on une date limite? On parle d'un départ accéléré, mais pas précipité. Pour autant, on ne sait pas si, peut-être en décembre 2025, la MONUSCRO doit totalement être partie. Je vous remercie.
Nous allons passer la parole au vice-premier ministre et à madame pour les questions qui ont été enregistrées.
Allez-y alors, la première c'est pour vous, hein. Le patrimoine.
Alors, concernant la question logistique, etc., il sera important de mentionner que par rapport au plan de désengagement, il y avait trois groupes de travail. Un groupe de travail, c'était avec les FRDC, la PNC et la force, la partie militaire de la mission, mais aussi UNPOL, la partie police de la mission. Et des discussions ont été faites dans ce groupe de travail qui devait discuter comment le partenariat allait se faire entre les forces de sécurité nationale et la force onusienne, de manière à ce que les bases, et là on parle d'infrastructures dans toutes les provinces, et comme nous commençons avec le Sud Kivu, il y a eu une focalisation dans cette première phase sur le Sud Kivu, pour dire quelles sont les bases que les FRDC, la PNC sont intéressés à reprendre. Et comme vous l'avez dit, il y a un lien très fort entre la reprise des infrastructures par les forces de sécurité nationales et la protection des civils, parce que là où sont les bases et les infrastructures de la MONUSCO, c'est aussi là, et ça permet de répondre à une autre question qui a été posée, c'est aussi là où nous avons la majorité des personnes déplacées internes. Puisqu'ils viennent toujours, lorsqu'ils fuient, ils viennent toujours à proximité des bases de la MONUSCO. Donc dans ce contexte, la stratégie, ça a été, et en excellente entente encore une fois avec les partenaires forces de sécurité nationales ici à Kinshasa, pour déterminer combien de bases seront reprises par les forces de sécurité nationales. Dans le contexte du Sud Kivu, je ne vais pas parler de l'ensemble par rapport aux autres phases, il y a 14 bases qui devront être reprises par les forces de sécurité nationales. Donc j'ai répondu à deux questions en une.
Bien. Yeah. La deuxième question qui consistait à savoir qu'est-ce qui arriverait après le départ de la MONUSCO. Globalement, c'est ça la question. Je crois qu'il faut d'abord apporter une précision de taille, plutôt la rappeler, parce que nous l'avons dit à maintes reprises chaque fois que l'occasion nous a été donnée de nous adresser à l'opinion. Le retrait de la MONUSCO, je vais marteler, n'est pas la fin de la guerre, encore moins la fin de la crise sécuritaire à l'Est. Je le reprends de la manière la plus claire. Le retrait de la MONUSCO n'est pas égal à la fin de la guerre ou à la fin de la crise sécuritaire, qui est un concept global. Le retrait de la MONUSCO ne signifie pas et absolument pas l'arrêt du combat que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, le parlement de la République et l'ensemble du peuple congolais mènent pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, son indépendance, sa souveraineté, et pour que les peuples congolais jouissent de tous les droits attachés à leur patrimoine nationale, à leur patrimoine culturel, à leurs ressources naturelles. Je voudrais m'adresser à l'occasion de cette question à tous les Congolais. Nous devons continuer à nous battre, et le chef de l'État n'a jamais cessé de le dire. Il va prêter serment dans quelques jours, certainement, que ceux qui lisent la Constitution trouveront dans la formule de serment des clauses relatives à ses devoirs constitutionnels qui sont les siens. Et dans la Constitution aussi, nous sommes tous astreints à l'obligation de protéger notre pays. C'est très clair. Mais ça n'est pas tout. Je voulais que les choses soient claires. Le retrait de la MONUSCO procède des ajustements nécessaires pour faciliter davantage les efforts que nous déployons en commun avec les Nations Unies pour arriver à ce que nous puissions restaurer la paix, la sécurité et la stabilité au Congo. Je dis avec les Nations Unies parce que nous sommes membres des Nations Unies, parce que la crise que nous a imposée le Rwanda à travers l'agression, c'est une crise à effet internationaux, c'est une crise qui dépasse les frontières nationales, et nous sommes obligés de travailler avec la communauté des nations à travers les Nations Unies, l'Union africaine et les communautés régionales. Ceci dit, les efforts à l'interne sont toujours faits par les présidents et d'autres institutions. Nous avons toujours dit que le secret, la baguette magique, c'est le renforcement de la force de frappe, de la puissance de notre armée, le renforcement de la spécialisation, des capacités renforcées, si vous voulez, j'ai fait la tautologie, de nos services de sécurité, de notre administration territoriale, cet ensemble de leviers de souveraineté, de sécurité que nous devons consolider, et les efforts sont faits. Ce n'est pas ici les lieux de dire ce qui procède de secret, de sécurité ou de secret militaire. Mais je crois qu'il y a des évolutions certaines, remarquables, qui sont faites à la date d'aujourd'hui, notamment du côté de l'armée. Un autre élément de protection de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale, c'est la mobilisation de tout le Congolais. Nous ne pouvons pas, comme on dit dans la sagesse ancestrale, compter, labourer notre champ, compter, construire la maison Congo avec les instruments venus de l'extérieur, les houes, les haches, les fusils venus de l'extérieur, ou avec les sang de ceux qui viennent nous accompagner. Non. L'avenir du Congo sera construit par les Congolais eux-mêmes, et cela doit s'entendre une fois pour toutes. C'est nous-mêmes qui devons nous mobiliser, comme on l'a fait sous l'autorité du président Tshisekedi, et cela doit continuer. Parce qu'on nous suit partout, je nous exhorte, nous les Congolais, à consentir cet effort que partout au monde, les peuples ont consenti pour s'émanciper et pour s'effrayer un chemin dans le concert des nations libres et prospères. C'est très important, et cela est fait, ça doit continuer. Parce qu'on parle de l'après MONUSCO, ça n'est pas pour rien que, à l'unanimité des Nations Unies et de la RDC, nous avons accepté le concept de retrait progressif. Ce n'est pas pour rien que nous avons un plan qui est séquencé, assorti de l'évaluation. Et hier encore, parce que mon collègue de la communication en a parlé, le gouvernement s'est penché sur la conditionnalité de la réussite du retrait de la MONUSCO au Sud Kivu. Pour être plus précis et concret, nous avons arrêté des dispositions, nous avons arrêté un programme précis de relève qui impliquera certainement le renforcement de la police nationale, celle de sécurité et des forces armées de la RDC. Cela est en mouvement. C'est pour ça que je vous ai dit que le retrait a déjà commencé. Et si vous lisez la résolution, ceux qui en auront le temps, 27-17, vous trouverez qu'il y a des pans entiers de cette résolution consacrée par le Conseil de sécurité sous la question de la continuité de la sécurité et de la paix et axé sur l'appui des Nations Unies, l'appui à la RDC, aux efforts de la RDC, et l'appui aux communautés régionales qui sont avec nous dans ce combat contre l'agression rwandaise. Donc, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Je voudrais tout simplement rassurer les compatriotes, au nom du président de la République et du gouvernement, que nous n'allons pas lâcher prise, que nous allons continuer nos efforts et qu'on le veuille ou non, le Congo, pendant ses mandats et le plus rapidement possible, va retrouver la paix, la sécurité, la stabilité à l'Est pour qu'ensemble, nous pouvons marcher vers le progrès, vers la démocratie comme un seul homme. Voilà la réponse que je peux vous donner sur la question après le retrait de la MONUSCO. Nous ne devons pas avoir peur de prendre nos responsabilités. Et il y a eu une autre question sur la question des déplacés. Je crois que madame la représentante spéciale a répondu. Bon, je pourrais la compléter de cette manière-ci. Il n'y a pas une fin de souffrance des personnes déplacées si il n'y a pas la fin de la guerre. Qu'on ne se trompe pas. Tant que les armes vont continuer à crépiter, c'est-à-dire que tant que l'agression rwandaise va demeurer, tant que par ailleurs on pense qu'on peut se permettre de violer notre intégrité territoriale, de nous imposer une façon de vivre, nous allons continuer le combat et la question de déplacer, c'est une question qui va être là et nous entendons la résoudre. Il n'y a pas une autre façon de faire sans que, parce que j'ai parlé de la fin de la guerre, nos compatriotes rentrent à leur domicile. Nous ne sommes pas nous, Congo, nous n'avons aucune vocation d'être l'industrie de production de déplacer des guerres. Nous refusons cela. Donc, il faut que nos compatriotes rentrent chez eux et il faut absolument que l'État congolais, quel que soit ce qu'on peut penser de bonne ou de mauvaise foi, rentre dans ses droits régaliens, c'est-à-dire que son autorité soit restaurée. Il faut également que, pour cela, nous puissions poursuivre, relancer le processus de paix de Luanda et de Nairobi. On pourra en parler en d'autres circonstances. Il y a eu, certainement par le concours des faits, par la force des événements, une sorte de ralenti. Bon, je n'entre pas dans ce détail-là parce que on n'a pas convenu de faire une conférence conjointe sur ça, mais la vérité, c'est que le processus a pris de la grippe quelque part. Nous sommes entrés aussi dans le processus électoral qui était fondamental en termes de constitution, en termes de légitimité. Maintenant, certainement que des initiatives seront prises par le président de la République et le gouvernement pour relancer le processus de paix de Luanda et de Nairobi. Ça, c'est très important. Ceci dit, de manière tout à fait conjoncturelle, on doit le savoir, nous avons des contacts avec nos partenaires, dont les Nations Unies évidemment, parce que c'est avec les Nations Unies qu'on parle aujourd'hui, pour examiner la question de l'aide humanitaire. Nous avons au niveau du gouvernement tout un ministère, le ministère des Affaires Sociales, Solidarité, j'en passe, qui s'occupe aussi de ces questions-là. Il y a un budget qui est prévu, nous devons nous devons réaliser des actions qui sont prévues dans ce budget, et cela, nonobstant que nous entrons dans la phase, certainement, de l'expédition des affaires courantes, mais il y a un chef d'État qui est élu, confirmé, et qui va officiellement poursuivre son travail en deuxième mandat à partir de la prestation de serment. C'est très clair. Donc voilà comment nous projetons l'affaire des déplacés. D'un côté, des solutions pérennes, je l'ai dit, et de l'autre, de manière conjoncturelle, on doit se pencher sur l'action humanitaire à l'interne comme à l'externe. Voilà. Il y a eu la question de l'échec de la MONUSCO. Je vous en prie.
Merci, Excellence, pour les ajouts concernant la situation des personnes déplacées internes. Et peut-être c'est le lieu de amener un élément que vous avez déjà dit, mais je pense de le renforcer, c'est que la situation des personnes déplacées internes, nous en avons quasiment presque maintenant 7 millions, hein, 7 millions de personnes déplacées internes, dont si on regarde l'Est, c'est à peu près 5,5, si je ne me trompe, hein, je regarde sous contrôle de mes adjoints. Et là, je crois que c'est le lieu dans la volonté des bonnes résolutions de début d'année de demander à ce que tous les groupes armés, mais vraiment tous les groupes armés, arrêtent et déposent les armes. Il y a le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation qui existe. Et je pense que l'accélération de la mise en œuvre aussi de ce programme, en dehors de théâtre qui est celui du Nord Kivu, sera tout aussi important pour la condition, améliorer les conditions, pas seulement en termes de prise en charge humanitaire, mais de faire en sorte que l'aspiration de ces personnes déplacées, c'est de pouvoir retourner chez eux, chez elles, et ça, ça ne peut se faire que s'il y a la paix. Et je pense pas que c'est un bon narratif pour la RDC d'avoir ce nombre absolument faramineux de personnes déplacées internes. Donc je suis d'accord avec vous, Excellence, que c'est un vrai sujet en lui-même et qu'il faut arriver à ce qu'on arrête la souffrance. Sur la question de quelle est mon évaluation, je vais juste dire que lorsqu'on évalue un partenariat, on l'évalue conjointement. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est que nous sommes conjoints dans cette communication. Et je veux arrêter là sur cette question qui n'était en fait pas une question, c'était un, comme on dit, un commentaire. C'est comme ça que je le prends. Et je crois que c'est à peu près tout.
La question de critères d'évaluation.
Alors, les critères d'évaluation ont été discutés pareillement dans les groupes de travail qui ont organisé le plan de désengagement. Et la focalisation pour nous, c'est essentiellement qu'est-ce qui se passe en termes d'incidents de sécurité, donc l'insécurité, comment est-ce qu'elle se manifeste par rapport à la protection des civils, en sachant que c'est la protection des civils qui est notre ancrage principal, parce que pour les autres domaines où il y a la continuité du travail des agences, fonds et programmes, nous avons la question de la restauration, de l'amplification de la présence de l'autorité, de l'état de droit partout sur le territoire congolais et notamment à l'Est. Et dans ce contexte, nous, et c'est peut-être le moment pour moi de le dire, c'est que dans le groupe de travail numéro 2 qui a été établi pour discuter justement comment est-ce que les agences, fonds et programmes vont appuyer les efforts de l'autorité congolaise dans tous ces démembrements et les différents ministères. L'insistance est sur la protection des civils, donc c'est un critère, et j'ai déjà expliqué pourquoi. C'est la question des droits de l'homme. Et donc, on regarde tous les aspects de violation des droits de l'homme, les violations graves, etc. La question des violences basées sur le genre et la question des violences aussi sexuelles liées au conflit. Et nous regardons aussi tout ce qui concerne la justice, la présence de la justice, donc l'administration de la justice, y compris la justice transitionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont interreliés avec la cohésion nationale, la coexistence pacifique entre les communautés, et donc l'élément justice transitionnelle est importante dans le contexte où il faut solidifier, consolider, parce que même quand on a la paix, tous les fléaux ne sont pas terminés. Et je pense que ça aussi, c'est le point important que vous avez fait. Donc il faut travailler sur cette dimension de justice transitionnelle pour asseoir une paix durable. Et puis nous avons donc le PDDRCS, que maintenant vous avez tout l'acronyme en entier, la réforme de secteur de sécurité, comment est la présence des forces de sécurité dans les différentes provinces en ce qui concerne la FRDC, en ce qui concerne la PNC et puis bien sûr les autres accompagnements. Donc voilà, ce sont des éléments absolument importants. Et puis pour nous, parmi les critères aussi, c'est qu'est-ce qui se passe avec femmes, paix et sécurité en termes de représentation, en termes de participation au processus de décision, en même temps en ce qui concerne leur capacité à pouvoir vaquer à leurs occupations sans être dérangés par les groupes armés, par l'insécurité qui s'exprime d'une manière ou d'une autre sur terrain. Et la même chose en ce qui concerne les jeunes, puisqu'on a aussi la résolution 2250, on nous demande de mettre en œuvre et qui regarde pareil la participation des jeunes. On a un pays très jeune en ce qui concerne la RDC, c'est une richesse. Et je pense que là aussi, de la manière d'accompagner ces jeunes, c'est parmi les critères qui ont été pris en compte dans le plan de désengagement. Je pense que c'est ça.
Et voilà, donc je voudrais compléter Madame la représentante spéciale par rapport à ces deux questions. La MONUSCO, échec ou non? Elle a déjà donné des réponses. J'ajoute que la MONUSCO, commençons par la MONUC et la MONUSCO ont fait ce que le pouvait faire avec les moyens juridiques, politiques, matériels et militaires à leur portée. Le travail à faire, il est encore énorme pour qu'on retrouve la normalité institutionnelle, la paix civile et la vitesse qu'il faut pour le développement du pays. Le chemin à parcourir est long, parsemé de beaucoup d'embûches, et donc nous devons continuer le travail. J'ai parlé des moyens, je renvoie ceux qui suivent le dossier aux déclarations sincères, constructives du secrétaire général des Nations Unies, je crois il y a deux ans, en 2000, nous sommes 22, sur RFI dans une interview qu'il a accordée à RFI et à France 24. Je crois que vous avez suivi le secrétaire général. C'était très responsable, sincère, et même dans les rapports, ceux qui peuvent le lire, qu'il a déposé au Conseil de sécurité au mois d'août de cette année. Donc, relativisons les choses, soyons conscients de ce que le travail à faire, il est encore énorme, demande la mobilisation de beaucoup d'efforts, de beaucoup de ressources, d'abord internes. Les critères d'évaluation, Madame la représentante a donné certains éléments qui entre dans le panier. Mais je voudrais que cela ne prête pas à équivoque. Que l'on ne dise pas que Madame la représentante a dit que l'on arrêterait le processus de retrait s'il n'y a pas de performance, si on n'a pas réalisé ces éléments importants de gestion de l'État, ces éléments de programmation gouvernementale. Nous allons évaluer tous ces éléments-là, et surtout voir comment le processus de retrait se réalise, quel ajustement faudra-t-il pour que la réussite soit là, comme l'a souhaité M. le Président, pour que, et là j'entre dans l'échéancier, normalement, au 31 décembre de cette année, nous sommes à la fin du processus de retrait. J'aime bien ce que nos partenaires de la MONUSCO disent souvent. Il faut faire la part des choses entre la transition et le retrait de la MONUSCO. Je crois que c'est très important. La transition, elle va durer. Parce que c'est un ensemble de paramètres qu'il faut réunir, qu'il faut améliorer un peu, comme Madame la représentante spéciale a dit. Mais le retrait au sens physique du terme et au sens même administratif, nous nous battons pour que tout soit fait à la fin de cette année. Voilà des précisions que je voulais apporter pour que nous puissions être clairs, blancs comme neige, clairs comme de l'eau claire dans un verre clair.
Alors, nous allons prendre les 5 nouvelles questions pour la deuxième série. Je pense que toutes les 5 questions de la première série ont été déjà prises en charge. Oui, le micro au fond. La dame.
Bonjour, chers excellences, c'est Angie Kassongo pour Reuters. Je voulais avoir une précision pour revenir un peu sur la citation de Madame Bintou en parlant du bilan. Je cite...
Vous n'êtes pas audible.
Excusez-moi.
Positionnez mieux le micro.
Excusez-moi, je vais rebondir en partant de la citation de Madame Bintou. Lorsqu'on évalue un partenariat, on évalue conjointement. Alors ma question, c'est plus pour... la suite, on aimerait savoir, on est parti de combien des militaires, des troupes de la MONUSCO, peut-être que ça nous aiderait à avoir une idée, qui étaient présents au pays, et combien sont partis déjà, ou combien seront partis à partir du mois d'avril, fin avril si j'ai compris, et du côté des autorités, si c'est possible de nous dire exactement combien d'agents de l'ordre, que ce soit de la police nationale ou des FRDC, parce que c'est dit de manière très générale, mais combien vont être déployés exactement? Parce que là, on entend au moins 11 millions de personnes déplacées, donc il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans toutes les zones où la MONUSCO était établie. Concrètement, si on peut avoir au moins les chiffres, ça nous aiderait de faire nos analyses ou les bilans nous-mêmes, plutôt que d'avoir des réponses très philosophiques. Merci.
Merci. Le micro, le monsieur au coin, ici, de ce côté. Oui.
Merci beaucoup. Moi, c'est Patrick Félix Abelli, antenne A Télévision. Madame Bintou Keïta, vous avez parlé de critères d'évaluation. Je serai un peu concret avec ma question. Vous avez parlé, bien sûr, de vos critères, mais je voulais savoir, vous êtes la représentante des Nations Unies. Vous avez entamé ce processus de retrait, la MONUSCO va partir, mais en termes de cette évaluation-là, vous devez avoir quand même un sentiment, soit c'est le regret ou bien la satisfaction. Et aussi du côté gouvernemental, je sais que c'est presque la même question quand vous savez que vous avez été avec vos partenaires et vous avez procédé aussi à cette même évaluation-là. Comment vous avez jugé leur travail sur terrain? Ils ont échoué ou ils ont réussi? C'est ça ma question.
Oui, Madame Doris, veuillez ramener le micro devant ici, s'il vous plaît.
Merci. Bonjour, je suis Annie Thomas de l'AFP, l'agence France-Presse. Vous dites que le retrait a commencé, mais est-ce que ça signifie qu'une des 14 bases du Sud Kivu a déjà fermé? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la première fermeture programmée et quand, s'il vous plaît?
Oui, nous allons prendre la dernière question de la deuxième. Oui, allez-y. Oui.
Merci pour la parole accordée. C'est Welcome Gimbi pour Saint-BDG. Ma question s'adresse au VPM Christophe Tundula. Il est vrai que je suis intéressé par la thématique du jour qui rencontre un éclairage sur un certain nombre de lanternes. Mais actualité oblige, outre la question de l'insécurité dans l'Est de la RDC, mais également du retrait progressif de la MONUSCO, il y a aussi dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs, la crise qui sévit actuellement entre Bujumbura et puis Kigali, dans laquelle on trouve le Burundi accusé, le Rwanda, de soutenir des groupes rebelles, notamment Tête d'Abara, chose qui a même aujourd'hui créé la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays. Maintenant, du côté de la RDC, ma question c'est de savoir, pour des millions de Congolais que nous représentons ici présents, quelles sont les mesures préventives qui ont déjà été prises par le gouvernement congolais pour contrecarrer cette incursion, si on peut le dire, de ces groupes rebelles, alors que le pays fait déjà face aux groupes rebelles M23 depuis des années. Merci.
On enregistre la cinquième et dernière question. Oui.
Merci pour la question. Albert Omban, America Télévision. Leurs Excellences, je suis content que l'amour entre le gouvernement et la MONUSCO puisse reprendre après tout ce qu'il y a eu comme échauffement. La question est celle-ci. Sur le terrain, plus précisément au nord Kiv, dans les territoires de Massis, Rutshuru et Nyiragongo, les troupes du M23 persistent. Est-ce que la MONUSCO, avec ses troupes, va aider le gouvernement congolais comme il l'a fait, je précise, à 2013, à appliquer le chapitre 7 et surtout à donner le mandat offensif ou à participer à ce mandat aux troupes de la SADC qui sont présentes. Il s'agit de la République de Malawi, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Merci.
Ok. Avant de passer très respectueusement la parole à leurs excellences, je voudrais inviter les médias qui nous suivent depuis la province du Nord Kivu à bien vouloir préparer leurs questions pour la troisième série. Excellence. Excellence.
Alors, j'avais pas très bien compris la question et on m'a remis une petite note et je pense que ça va être répondu en deux temps. C'est combien de troupes de la MONUSCO vont se retirer. Là, je peux donner les chiffres en ce qui concerne la MONUSCO. Et quand il s'agit du déploiement du côté de l'autorité congolaise, je vais passer la parole à son Excellence, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Je ne parle pas au nom de l'autorité ici. Donc, très clairement, nous avons en ce moment un plafond de 13 500 troupes qui ont été autorisées par le Conseil de sécurité. Avec le retrait des troupes au 30 avril 2024 du Sud Kivu, nous allons arriver avec, au démarrage donc de la prochaine année budgétaire au 1er juillet 2024, avec 11 500 qui est le plafond autorisé par le Conseil de sécurité. Ces informations, par ailleurs, je veux juste vous le dire, si vous voulez avoir la curiosité d'aller lire la résolution 2717, ces chiffres, c'est pas de la théorie, c'est dans la résolution de 2717 dont on vous a parlé au tout début de cet échange. Donc voilà pour ce qui concerne la question des troupes. En ce qui concerne je vais juste aller jusqu'au bout avec ça, c'était les militaires. Pour ce qui concerne les policiers individuels, au moment où nous allons entamer la prochaine année budgétaire au 1er juillet 2024, nous allons passer de 591, qui est le plafond autorisé en ce moment par le Conseil de sécurité, à 443 policiers à partir du 1er juillet. En ce qui concerne les unités de police constituées, pour dire en anglais les FPU, les Foreign Police Unit, le plafond autorisé en ce moment, c'est 1410, encore une fois autorisé par le Conseil de sécurité. Et lorsque nous allons dans l'année budgétaire qui démarre au 1er juillet 2024, nous serons à 1270, c'est le plafond autorisé encore une fois par le Conseil de sécurité. Donc vous avez la partie militaire, la partie police, et dans la partie police vous avez deux composantes, les unités de police constituées et les policiers individuels. Donc, c'est la réponse à la question qui était posée, je pense, par une dame. Après, donc, j'essaye de me rappeler les questions parce que ce n'était pas évident.
Regret ou satisfaction,
je pense que pour moi, personnellement, en regardant l'historique de l'accompagnement de la mission, des différentes missions de paix, MONUC et ensuite MONUSCO, et en regardant objectivement où était la situation du pays il y a 20 ans en arrière, où vous aviez des troupes, y compris à Kinshasa. Aujourd'hui, ça fait déjà très longtemps, il n'y a pas de troupes présentes à Kinshasa. Il n'y a pas de troupes présentes dans plusieurs provinces du pays. Nous sommes en ce moment dans 3 provinces du pays. Je dis, c'est le dernier chapitre qui, très souvent, comme les marathoniens, c'est toujours le plus difficile. C'est un petit peu ça où on est maintenant. Donc, je ne peux que dire que tous les collègues qui ont contribué à où nous sommes arrivés aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'ils ont accompli du bon travail. Comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, beaucoup reste à faire, et beaucoup reste à faire avec une prise en main, une prise en charge, une responsabilité de l'autorité congolaise, de son propre destin. Et en fait, si on regarde bien, c'est ça l'aspiration du peuple congolais, de l'autorité congolaise, c'est de prendre son destin en ses propres mains.
Bien, je vais essayer aussi d'apporter quelques éléments de réponse. Regret ou satisfaction, je crois que j'ai répondu à la question. Il y a toujours une difficulté, vous savez, lorsqu'on fait de tels types d'évaluation. Personne, et absolument personne, ne peut nous projeter aujourd'hui les images de ce que serait ou ce qu'aurait été notre pays depuis 20 ans, 25 ans, sans un partenariat avec les Nations Unies. Personne ne peut nous projeter ces images-là, parce que même si on a une mémoire, je ne sais pas laquelle, c'est assez compliqué. Ça veut dire tout simplement que se serait-il passé si la MONUSCO n'était pas là. Comme ça, on a beaucoup d'éléments d'appréciation. Ça, c'est de un. Des deux, la MONUSCO, c'est pas seulement que l'action militaire, c'est ces 88 millions poussières de salaires, de pouvoir d'achat supplémentaire apporté à nos compatriotes. C'est l'emploi aussi. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement, nous avons discuté de la question concernant l'avenir de nos compatriotes qui travaillent à la MONUSCO, ils sont à peu près 1600 personnes. En résumé, comme elle a dit, comme je dis, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire, et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Et donc, je n'aime pas verser dans des évaluations, je ne dis pas hâtives, mais qui ne sont pas complètes. Il y a un travail qui a été fait, il faut l'apprécier. Et aussi, je termine sur la question, qui a dit que nous n'allons plus continuer à travailler avec les Nations Unies? Personne. réaliser la lettre du gouvernement. Et ce que nous faisons aujourd'hui, et voilà. Le retrait a commencé, la première fermeture. Peut-être que Madame la représentante spéciale a eu l'idée là-dessus. J'ai dit ça a commencé parce que nous parlons du retrait du Kivu, à partir du Kivu. Et nous travaillons parce que c'est pas par un claquement de doigts qu'on retire des troupes, quelles qu'elles soient. Il y a la préparation matérielle, il y a une série de conditions sécuritaires, il y a la relève et tout. Donc nous sommes dans cette perspective-là. Hier, avant-hier, l'année passée, on n'était pas à cette phase-là. Donc le retrait a commencé. Je comprends le souci de voir un peu quelque part des militaires monter dans des avions. Ça viendra quand tout sera à maturité. Mais le retrait a commencé. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des équivoques là-dessus, qu'il y ait encore des débats sur le retrait. Et crise entre Bujumbura et Kigali, mesures préventives. Red Tabara. Je voudrais préciser à l'intention de la personne qui a posé la question. Red Tabara, je crois, c'est résistance pour l'état de droit, qui est un mouvement rebelle burundais, dont les éléments se sont enfouis et sont sur le territoire congolais. Il existe au niveau de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité, la coopération pour la RDC et la région, il existe ce qu'on appelle groupe de contact et de coordination, dont la mission est de réfléchir, de travailler sur la question de groupes armés étrangers qui évoluent en RDC, sur leur retour dans leur pays, en dehors bien sûr des moyens militaires. Ce groupe existe. Le 15 décembre de l'année dernière, il y a eu à Dar es Salaam une réunion des chefs des services des renseignements et de sécurité du Rwanda, du Congo, du Burundi, de la Tanzanie, je ne sais pas si j'ai oublié encore un autre pays, de l'Ouganda, se sont réunis, ils ont fait l'évaluation. À ce qui concerne le groupe qui a fait mouche au Burundi il y a quelques jours, je dois prendre du recul et vous dire qu'avant les élections, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, qui est M. Wang, je crois, Wangxia, qui est basé à Nairobi, m'a contacté pour me dire qu'il y a certains membres du groupe Red Tabara, je crois c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont accepté de rentrer dans leur pays, de réintégrer, si vous voulez, leur pays d'origine, et qu'il fallait des facilitations du côté de la RDC. Nous avons répondu positivement. L'évaluation du 15 décembre de cette année à Tanzanie a établi, de par la déclaration même de la délégation burundaise, les dispositions sont prises pour accueillir dans de bonnes conditions ces rebelles de ce mouvement, de ce groupe, de groupe armé qui veulent rentrer. Et donc on travaille à ça. Je crois que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés est mis à contribution. De notre part, des mesures préventives. Non, ce n'est pas des mesures préventives. Nous avons des dispositions militaires qui existent. Ce n'est pas ici le lieu de vous en parler. Pour défendre notre pays, nous avons aussi la perspective de coopération régionale à laquelle je viens de faire allusion. Donc, le dossier est pris en charge à ce niveau-là. La question de savoir, je crois que on a oublié hein, la question de savoir, c'est comme ça que je résume, hein, si aujourd'hui, je crois que c'était ça la question, la MONUSCO peut ou va assister la RDC en cas d'attaque ou de violence qui vient d'un groupe armé. Je crois que c'est ça la question. La réponse est simple. Vous n'avez pas la résolution. Je vais vous lire le paragraphe.
Le paragraphe 20, il est dense, je vais vous lire les éléments essentiels. Ça, c'est la résolution qui a été votée, le 20. Se déclare favorable, les seuls à, c'est le Conseil de sécurité, à ce qu'un appui soit donné à des forces régionales comme il convient. Déclare, c'est toujours le Conseil de sécurité, son intention d'étudier si les pays hôtes et l'organisation concernée en font la demande de manière claire et précise. Les conditions dans lesquelles la MONUSCO pourrait donner un appui logistique et opérationnel limité à une force régionale déployée sous l'égide de l'Union africaine dans la zone de déploiement de la mission au fin de l'exécution du mandat de celle-ci, et on peut continuer. Donc, il y a une base juridique certaine qui permet de trouver la réponse à la question et la conditionnalité, évidemment, c'est bien dit. Il faut que la RDC, et en l'espèce, je crois qu'on fait allusion à ça, et la mission de la SADC en RDC, la mission militaire de la SADC, qui est déjà sur le terrain à Goma, il faut que notre pays et cette mission-là en formule conjointement la demande. Donc l'ouverture est là, il n'y a pas à spéculer dans un sens comme dans un autre. Voilà. Je pense que ce sont les questions qui ont été posées.
Le déploiement des forces de sécurité.
Le déploiement des forces
de sécurité côté autorité.
Ah oui. Je vois. Non, mais attendez là. Ne me demandez pas de venir dans une réunion de presse, dans une communication publique, vous dire qu'il y aura un policier, deux militaires. Ben, c'est pas là où on fait ça. Ce sont des secrets des forces. Et c'est d'ailleurs mon collègue, le vice-premier ministre de la Défense et le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui techniquement sont mieux outillés que moi pour vous le dire, même si les affaires étrangères sont au carrefour. Donc, sachez tout simplement que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement assume toutes ses responsabilités. L'État congolais assume toutes ses prérogatives régaliennes, dont celle d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est constitutionnel. Personne n'attend faillir à son devoir.
Juste pour compléter la partie sur le partenariat avec Force régionale, tout a été dit à travers la résolution, je ne reviens pas là-dessus, mais peut-être juste de rappeler à tout le monde que dans le contexte de la mise en œuvre de notre mandat, rappelez-vous que j'ai dit désengagement, continuation de mise en œuvre du mandat, transition et retrait. Alors, nous avons depuis le début, pour ce qui concerne le Nord Kivu, il y a une opération qui a fait d'ailleurs l'objet d'un point de presse du commandant de la force, qui est l'opération Springbok, et qui est une coopération, une opération conjointe entre les FRDC et la force onusienne sur précisément ces théâtres de Nord Kivu avec Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Je ne veux pas parler de technique militaire, mais je pense que lorsque le commandant de la force m'en parle, il me dit nous avons 5 points de blocage, blocking position par rapport à l'opération Springbok, et qui regarde comment faire en sorte qu'on soit dans une position qui permette de repousser le M23 par rapport aux prises de Sake et de Goma. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours déjà depuis plusieurs mois. Donc il n'y a pas une question, est-ce que vous faites de l'appui au FRDC, la continuation de l'appui au FRDC en tant que mise en œuvre de notre mandat est toujours en cours. Et je m'arrête là pour ça. Et pour le dernier point par rapport à une des questions, c'est où démarre, quelle est la première base qui va fermer dans le sud Kivu, c'est la base de Kamanyola.
Donc c'est très clair, il y a un processus. Une fois que la décision est faite entre les FRDC et la force, il y a un compte à rebours, et le compte à rebours a déjà démarré et fait en sorte que cette base, elle sera complètement fermée à un moment donné, et si j'ai bien compris, ça sera le 15 février au plus tard. Et aussi, je pense qu'il est important de mentionner que pour ce qui concerne les bases qui ont fermé avant même, parce que vous vous souviendrez, Excellence, que on avait dit déjà en décembre 2023 commence le retrait. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, nous avons fermé la base de Lubero dans le Nord Kivu. Et pour ceux qui suivent encore l'actualité, l'année dernière nous avions eu de Butembo et nous avons aussi fermé la base de Butembo. Donc Butembo est fermé. Lubero est fermé, la prochaine base à fermer dans le contexte du désengagement Sud Kivu, c'est Kamanyola.
Bien, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais, avant de passer la parole à madame la représentante spéciale pour clôturer, le gouvernement, comme maître des lieux, a introduit. Il convient que, selon les bonnes manières, les bonnes pratiques, que notre hôte puisse clôturer. Je voudrais encore une fois remercier ceux qui sont venus et je voudrais au nom du gouvernement également exprimer nos remerciements à toute l'équipe des Nations Unies représentée par la MONUSCO et à sa chef, madame la représentante spéciale, pour la disponibilité, l'esprit d'ouverture et l'engagement à faire en sorte que ce retrait qui a tant fait couler tant d'encre et de salive soit une réalité, mais une bonne réalité, qui va être, comme le président l'a dit, je termine sur ce point par là, un modèle mis à l'actif et de la RDC et des Nations Unies. Permettez aussi, la charité bien ordonnée commence par soi-même, que je puisse féliciter tous mes collègues du gouvernement, tous nos experts qui ont travaillé à ce dossier et qui doivent continuer à travailler parce que, en dehors du plan en lui-même, il y a des tranches sectorielles qui nécessitent un travail de réflexion approfondie dans le même climat et qui nécessite le réalisme et l'implication de tous. Ministère sectoriel par ministère sectoriel, d'autant plus que il y a un des responsables qui est là, monsieur le marquis, madame la ministre d'État n'est pas là, il y a un travail qui se fait entre les Nations Unies et le gouvernement à ce qui concerne, si vous voulez, le partenariat général. Donc, félicitations, continuez, au nom du président, soyez fiers de ce que vous avez fait comme le travail. Je vous transmets aussi ces félicitations. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez remercié nos partenaires. Il est important de dire que quand nous avons travaillé, après le travail, nous avons discuté avec les ambassadeurs, les représentants des pays membres du Conseil de sécurité, en particulier les P5, les membres permanents, les A3, les pays africains qui sont au Conseil de sécurité. Ils nous ont beaucoup aidés pour avoir la déclaration et pour avoir cette résolution, que nos remerciements soient aussi exprimés à ces héros, entre guillemets, dans l'ombre. Voilà, madame, c'est à vous à clôturer la séance.
Merci beaucoup, Excellence. Je pense que, clôturons, c'est le lieu des remerciements. J'en avais exprimé au départ et vous les avez réitérés. Et je crois que moi, ce que je veux retenir pour cette fin d'échange, c'est l'esprit constructif et de collaboration qui a prévalu au cheminement que nous avons fait depuis plusieurs mois. Donc je ne peux que demander, puisque on dit qu'en début d'année, il faut faire des souhaits, que cette continuation d'esprit constructif et de partenariat pour réussir la vision du chef de l'État, C'est quelque chose à laquelle chacun de nous, chacune, sommes engagés. Et de vous remercier, vous personnellement, pour le leadership dont vous avez fait montre tous ces derniers mois pour que nous arrivions là où nous sommes, et de remercier toutes les équipes, à la fois les équipes gouvernementales, mais aussi les équipes du système des Nations Unies. Quand je dis système des Nations Unies, il y en a qui me disent, bon, où se trouve la MONUSCO? La MONUSCO fait partie du système des Nations Unies. Mais en même temps, comme nous l'avons dit, c'est de réussir à ce que nous puissions extraire de ce système des Nations Unies, de la RDC, la MONUSCO, et que les agences, fonds et programmes continuent d'accompagner l'autorité congolaise à tous les niveaux. Et donc, retroussons-nous les manches. Je pense que c'est ce que vous avez dit en des mots plus élégants, Excellence. Retroussons-nous les manches. Chaque jour, chaque heure va compter pour que nous soyons au rendez-vous. Parce que moi, ce à quoi je voudrais être associée dans quelques années, c'est que nous avons pu, en RDC, écrire en lettres d'or que une mission qui a vécu, contribué très longtemps dans le pays est partie en toute sérénité et avec dignité de la RDC. Et merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le point de presse de ce jour. Le protocole remercie l'assistance de bien vouloir rehausser de sa présence. Et pour immortaliser ce moment de travail, leurs excellences vont nous accorder 5 minutes pour une séance de photos de famille, et j'invite très rapidement le protocole à bien vouloir réaménager l'endroit pour la photo de famille. Le protocole est appelé à